Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Longeon. Et cette semaine, alors pour la troisième fois consécutive, j'ai le plaisir de avoir Benjamin avec moi en tant que chroniqueur, co-animateur du podcast. Salut Benjamin.
Eh ben, bonjour à tous.
Eh ben, ravi de te retrouver encore une fois. C'est cool que tu répondes présent comme ça. Ça a devenu un peu notre habitude, notre rendez-vous hebdomadaire ensemble pour discuter
Ouais,
de
bah, jamais 203, je me sens bien, je me suis installé, j'ai amené ma tasse, donc je suis bien.
Mets-toi
Mets-toi à l'aise.
à l'aise dans un petit coin confortable du podcast. Et on n'oublie pas les bonnes pratiques, comme d'habitude,
Évidemment.
d'aller évidemment mettre ces petites étoiles, ces 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Hein, je répète, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, partout. Vous pouvez mettre des notes, mettez des notes. C'est super important. Et puis aussi, nous retrouver sur YouTube, vous pouvez suivre la chaîne Les coulisses du jeu. Et puis, voilà, liker, partager un maximum pour que plein de gens puissent profiter de ce podcast et que ce podcast soit un peu plus connu. Donc, écoute, je te propose qu'on
Ouais,
attaque
carrément.
toujours par notre routine d'échauffement quotidienne. Donc, pour encore un épisode consécutif, on va parler toujours de licenciement, fermeture, etc. Ouais, on a un peu l'habitude d'en parler depuis quelques temps maintenant, mais j'ai l'impression que c'est vraiment cette année, hein, 2023, comme on disait là, déjà dans le précédent épisode, qu'il y a beaucoup de fermetures, de restructurations.
Ah bah le fameux mot, hein, restructuration interne qui cache tout et rien à la fois et qui permet tout, par contre, et qui est très pratique.
Et c'est vrai que là, récemment encore, depuis le dernier enregistrement, on a eu d'autres annonces qui sont tombées, d'autres studios qui ont se sont séparés de gens, qui ont effectué des licenciements. Hein. Donc, on avait parlé la dernière fois de Epic Games, hein, qui avait presque c'est quoi, 16% de leur staff qui avait été licencié, remercié. Donc, voilà, ça a fait un peu de vagues parce que c'était quand même assez massif. Mais il y a aussi eu de plus petits licenciements chez Blizzard. Là, qu'est-ce qu'il y en a eu d'autres? Il y a Beamdog, hein, ceux qui ont fait les versions remaster de Baldur's Gate et tout ça. Donc voilà, Crystal Dynamics, Roblox aussi, Team 17, Naughty Dog, Keywords, même Twitch, qui appartient quand même à Amazon. Enfin, il y a quand même des grosses boîtes, c'est pas que des petits noms, hein, qui licencient. Et en fait, il y a un article sur Game Industries qui résume un peu tout ça. Que signifient toutes ces vagues de licenciements pour l'industrie globalement? Donc, il repasse un peu en revue des choses qu'on a déjà dit la semaine dernière, nous, Benjamin, je pense.
Ah bah complètement, bien sûr. Si on ne prend que les facteurs économiques, bien sûr. Alors je ne sais pas si on l'avait dit en off ou si du coup c'est quelque chose qu'on avait dit la semaine dernière sur le podcast, mais aujourd'hui c'est très dur d'obtenir un prêt. Tout coûte plus cher. On a un problème là-dessus. Ça impacte tous les secteurs. Je sais pas si vraiment le jeu vidéo c'est le plus impacté. Et encore, quand tu vois tous ces licenciements, tu pourrais te dire que finalement ça fait quand même mal parce que il y a, je crois aussi, 10 000 licenciements chez Microsoft. Alors, bon, Microsoft
Oui,
pour
en
la part
dehors du jeu
aussi.
vidéo. Oui, c'est vrai.
Ouais, voilà, dans la tech. Si on prend la tech dans sa globalité, parce qu'on fait un peu partie de la tech aussi quand même. Hein,
Oui, bien sûr.
et ben du coup la crise est forte. Et là, je crois que c'était il y a 3 épisodes quand j'ai fait mon premier épisode avec Embracer, qui avait avalé tout le monde quand l'économie était à son plus haut, quand l'argent était extrêmement peu cher et tout ça. Et là, après, on parlait de digestion difficile, où du coup, ils recrachaient un peu tout ça. Et je crois que Beamdog en fait partie, non? C'est pas, ou Crystal
Oui,
Dynamics.
Crystal Dynamics, ouais, c'est ça, ouais.
Voilà, et ben voilà, hein, c'est-à-dire que forcément, ils assurent leur survie, et là aujourd'hui, il faut ralentir, il faut attendre un peu. Et j'ai une connaissance qui me disait que c'était quelque chose qui était déjà arrivé par le passé, et notamment lors de la crise de 2008, où en fait, on retrouve les éditeurs et publishers qui freinent, attendent, observent. Essaye plutôt de repérer la pépite sur laquelle ils peuvent
Capitaliser,
capitaliser,
ouais.
voilà, et non pas
Et miser,
capituler.
ouais, vraiment
Et
d'investir,
voilà.
d'aller à fond, quoi, de plus être prudent sur les investissements. Et
Exactement.
Et c'est ce que
Mais
dit
là,
aussi dans l'article. Ouais, vas-y, dis-moi, excuse, je t'ai coupé.
ouais, et du coup, juste pour finir, ce qu'il expliquait aussi, c'est qu'en fait, le problème qu'ils vont avoir avec ça, c'est que dans 2, 3 ans, ils n'auront plus rien à montrer. Et donc, du coup, ils vont réouvrir les vannes. Donc, essayons d'être un peu devins, sortons notre boule de cristal quand on est des studios de développement et essayons de voir un peu, de lire entre les lignes et de voir quand est-ce qu'il faut se positionner, survivre jusqu'à une belle opportunité. Et donc, l'histoire se répète. Peut-être qu'elle
Ouais.
se répétera en 2025-26.
Et c'est vrai que c'est le contexte aussi économique, comme tu disais, par rapport, qui est beaucoup lié à la pandémie, hein, mine de rien, où en fait, il y a eu, ben, pendant la pandémie, il y avait beaucoup d'argent. Ce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas réalisé ou n'ont pas vu, mais il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis en circulation et pour bah, relancer l'économie, pour couvrir tous les frais liés bah, au chômage un peu technique, il y a des choses qui sont. Du coup, il y a beaucoup d'argent qui était en circulation, qui ont pu être investi et où les vannes étaient un peu ouvertes. Et là, en post-pandémie, bah, du coup, il fallait bien rembourser hein, tout cet argent. Donc, il fallait bien que bah, ça, on ne peut pas faire tourner la machine à billets comme ça. Et donc, c'est vrai que l'après-coup est assez violent.
Ouais, complètement.
Où il y a eu des investissements, peut-être ils ont peut-être eu des investissements de certaines bah, sociétés économiques comme des VC, des ventures capitalistes ou des investisseurs privés qui ont pu investir sur des choses qui n'étaient pas forcément rentables, quoi. Donc, en disant, bon, c'est pas grave, on s'en fiche, on investit et puis on verra bien si ça a pas, si ça prend, si ça prend pas. Et ça n'avait pas beaucoup d'impact pour eux parce que l'argent n'était pas cher. Ils préféraient ne pas passer à côté d'un contexte d'investissement qui pourrait potentiellement enfin, apporter quelque chose. Bon, ça s'est beaucoup vu, notamment sur tout ce qui est NFT, Web3, crypto et tout, où il y a beaucoup d'entreprises qui ont pu lever en très peu de temps beaucoup de choses, beaucoup d'argent, et qui se retrouvent en post-pandémie, bon, quand il faut être rentable et d'avoir des rentabilités assez rapides, ben, c'est beaucoup plus compliqué, et qu'ils se retrouvent à fermer parce qu'ils ont plus de. Parce que c'est des sociétés qui vivaient sur un modèle que d'investissement, donc ils ne peuvent pas survivre sans ces investissements. Sans cramer d'argent ou sans de la dette, et beaucoup de gens finalement se tournent vers la dette plus que sur l'investissement, et ça ne marche pas forcément aussi, comme tu disais, Benjamin. La dette, les prêts, ben, c'est difficile à obtenir aussi, quoi. Donc
Ouais,
les taux
complètement.
sont envolés, les taux d'endettement sont enfin d'emprunt sont envolés. Donc maintenant, voilà, avec les coûts de production qui sont envolés aussi, en fait, c'est ça qui est un peu difficile parce que oui, l'inflation est là, les coûts de la vie, ben ouais, tout le monde paye, quand vous allez faire vos courses, vous allez payer plus cher. En même temps, vos salaires n'ont pas forcément augmenté, donc vous essayez de négocier des salaires beaucoup plus élevés. Mais pour augmenter les salaires, il faut que ben, les sociétés augmentent leurs coûts aussi, de répercuter ça sur les produits qu'ils vendent, quoi, pour que ce soit en
Ah bah bien
B2B
sûr.
ou B2C. Et donc, c'est ce cercle un peu vicieux qui est en train de sauter, parce que du coup, si les sociétés n'arrivent pas à suivre, bah, elles se retrouvent les premières à fermer et du coup à licencier. Et donc, les gens ont forcément moins de pouvoir d'achat, encore moins en étant au chômage, quoi. Donc, c'est assez compliqué. Alors, moi, je suis pas un économiste, donc je fais un
Non,
peu
bah.
des analyses à
Et puis c'est pas
l'opportuniste.
notre rôle, mais disons qu'on donne plutôt une impression personnelle parce que par rapport à ce que tu disais avec avec la pandémie, il y avait aussi le fait que, imaginons à la fin du mois, enfin, une fois que toutes nos charges sont payées, il nous reste 300 euros. Avant la pandémie, les 300 euros, il y aurait peut-être 150 balles qui iraient dans les sorties avec les potes pour aller boire dans des bars et déstresser et tout ça. Il y avait peut-être un peu de jeu, un peu d'achat de vêtements ou je ne sais quoi. Et là, en fait, une fois qu'il y avait la pandémie, ben, en fait, les 300 balles, il restait 300 balles pour le
Bah
jeu vidéo.
oui, c'est
Et en fait,
ça.
parce et les courses, bien sûr, évidemment, mais c'est tout. Et on se mettait à faire beaucoup moins de choses. Alors, quand je dis 300 balles pour les jeux vidéo, bien sûr, pour des gens qui nous écoutent et qui sont dans l'univers du jeu vidéo. Hein, parce que sinon, on mettait son argent ailleurs.
Mais c'est vrai que les habitudes de consommation ont changé aussi. Ouais. C'est vrai que le nombre de jeux achetés, peut-être aussi, tu achètes peut-être moins de jeux et peut-être
Ah bah bien
qu'il y
sûr. Bah
a.
parce que c'est revenu et maintenant on retourne dans les bars. Le
Bah
problème, c'est les bars, en fait. C'est ça le problème.
ouais. Non, et puis aussi sur les jeux consommés, peut-être qu'il y a plus d'envie sur des jeux avec des longues périodes enfin des temps de vie, enfin de jeux quoi, de gameplay ou des jeux as a service, enfin les games as a service, les jeux gratuits, free to play, qui proposent des choses avec une longue période enfin une longévité assez longue quoi sur l'expérience. Bon, ça a toujours existé, mais est-ce que bah tu vois, est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de jeux comme ça? Enfin, on pense à Fortnite, on en parlera tout à l'heure aussi, mais bon,
Ah bah
c'est
c'est ce
pas
que je parlais le dernier podcast, hein, le gros souci des games as a service qui ont une durée de vie infinie et qui monopolisent le joueur pendant peut-être 3 ans et il ne verra pas ce qu'il y a de l'autre côté. C'est quand tu nous parlais du coup de toi, ton anecdote avec la
Ouais.
PS2 et tout ça.
Oui, par
Mais
rapport à
bon.
World of Warcraft, ouais. Mais c'est vrai que du coup, il y a ce changement dans l'écosystème qui conduit quand même à des bouleversements un peu par effet de ricochet sur les entreprises dans le jeu vidéo qui sont obligées d'un peu revoir leur investissement. Et comme tu dis, peut-être que demain, ils auront peut-être moins de choses à montrer. Donc, ils sont beaucoup plus prudents sur ce qu'ils investissent, sur quoi ils mettent de l'argent. Mais c'est juste peut-être un réajustement qui était nécessaire, comme on l'a eu plusieurs fois hein, dans l'histoire. On peut se rappeler aussi des années 80, si on remonte à plus loin, où quand il y avait plein de jeux, des clones de jeux, des Space Invaders, des compagnies qui étaient sur le marché, qui inondaient le marché, et que Nintendo est arrivé en disant, bon, ben voilà, nous on sort une console, pour venir chez nous, il faut avoir le seal of approval de Nintendo. Et donc, ça veut dire que vous faites des jeux de qualité, sinon, voilà, si vous faites un énième Space Invaders, vous ne serez pas publié chez nous, quoi. Donc, du coup, acheter une console NES, c'était la garantie d'avoir des jeux plus originaux et d'avoir quelque chose de plus qualitatif que ce que tu pouvais trouver sur d'autres consoles.
Carrément. Bah, du coup, c'est sûr qu'il va y avoir un écrémage. Alors là, je vois aussi que dans l'article sur lequel on s'appuie pour parler de tout ça, il parle des solutions possibles pour la suite. Et là, on retrouve l'intelligence artificielle. Alors là, du coup, grand débat là aussi, hein, c'est-à-dire à quel point l'intelligence artificielle doit réduire les temps de développement au sacrifice de qui? C'est toujours pareil, quoi. C'est compliqué aussi, ça.
Ouais, je pense que l'IA peut être là pour le support, mais est-ce que ça va vraiment réduire complètement le temps de développement ou résoudre des problèmes de production? Je suis moyennement convaincu hein, parce qu'il y a des solutions qui existent, mais est-ce que c'est production ready? Je sais pas.
Non. Là, on a regardé, il y a une IA qui a réussi à générer un modèle 3D à partir d'une image.
Oui.
Donc, on est quand même sur des choses qui commencent à se peaufiner, qui sont assez folles, surtout pour court gain de temps, c'est sûr. On
Ouais, mais
génère
après,
une image et après.
tu vas quand même le prendre, le réadapter, le mettre dans la DA, enfin, tu vois, du
Bien
jeu. Enfin,
sûr.
il y a quand même un travail humain qui peut être là. Donc, c'est vrai que oui, peut-être qu'il y a des choses qui vont faire gagner un peu de temps, mais je suis un peu sceptique sur cette solution proposée, je t'avoue, de l'article sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est comme dire, oui, l'usage de l'informatique va résoudre les problèmes. Bah, non, mais non, c'est l'informatique, c'est juste un support, c'est un outil comme un autre. Ça va t'aider à travailler un peu
Il
plus
a
facilement.
solutionné des problèmes, mais il en a créé d'autres.
Voilà, c'est ça. Et l'autre solution aussi qu'il proposait, c'est de recourir à des sous-traitants, mais c'est déjà le cas. Enfin, je veux dire, c'est la plupart des boîtes. Enfin, il y a très peu d'entreprises que je connaisse font tout en interne, souvent même pour des petits trucs, vont dire, bon, ben là, j'ai besoin d'un concept et je vais prendre un concept artiste, quoi, pour un truc clé. Donc, ils le font déjà naturellement, les entreprises. Donc,
Bah,
je
bien
trouve que
sûr.
ça apporte pas forcément de solution, hein, et c'est plus
Et
un.
j'aime beaucoup la dernière solution proposée qui est une révision des attentes concernant les performances des jeux. Eh ben, bonne chance à ceux, et donc bonne chance aussi à nous, hein, de ceux qui sont dans le delta entre l'attente est très haute et l'attente commence à baisser, si l'attente commence à baisser. Parce que quoi qu'il arrive, les triple A, il y a Mirage qui est sorti hier par exemple, elle est où la révision des attentes des performances du jeu sur les triple A, les quadruple A? À mon avis, ça, il n'y aura jamais de révision des attentes là-dessus. Au contraire, même.
Bah, il faut revenir à peut-être des choses un peu moins ouais. Il faut peut-être je sais pas. Il n'y a pas vraiment de solution en
Non, mais non, et puis surtout que révision des attentes, pour moi,
fait.
c'est là où se place l'indé, en fait.
Bah Ouais, je pense que pour les triple A, ça va être compliqué. Enfin, après, Ubisoft a
Bah
déjà tenté
oui.
par le passé hein, de faire des jeux plus en mode indé, ce qui a plutôt bien marché hein, quand on pense à c'était quoi Valiant Hearts et il y avait deux trois jeux qui étaient plus sur l'esprit, tu vois, petit jeu, petite prod, et qui pour le coup bien fonctionné aussi. Hein. Enfin, il a été bien apprécié. Alors, je sais pas en termes de vente, de chiffres de vente, si ça a bien marché,
Moi, il
mais
y a une série de Ubisoft que j'avais adorée. Je ne sais pas si tu avais joué sur PC, qui étaient les Might and Magic,
oui.
qui ont donné après les Heroes of Might and Magic. Mais les Might and Magic, c'était vraiment des RPG où on a, enfin, vraiment avec une saveur particulière. Et il y a pas mal de temps de ça quand même. Ubisoft a ressorti un Might and Magic Legacy, qui était un hommage à ces jeux remis au goût du jour que j'avais adoré refaire. Et c'est sûr que là, c'était une petite équipe. Mais
Ouais.
bon, ça marche pas non plus à chaque fois. Et ça, je sais pas si ça fait vivre. Pour moi, ça, j'aimerais bien savoir en réalité. Mais pour moi, ça,
En
c'est des
termes de
jeux
chiffres de vente, ouais.
à
Est-ce que ça se
perte.
suit? Ouais.
Mais par contre, c'est des jeux qui donnent de la crédibilité et
Au
qui dorent
studio,
le blason du studio. Donc,
c'est vrai.
ils y gagnent, du coup, pour les autres jeux qui vont, eux, frapper fort.
Ok. Bah ouais, on verra. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de studios qui sont touchés. Il y a même des studios bah, qui font spécialiser dans la sous-traitance, hein, comme Keywords, qui sont vraiment spécialisés là-dedans, mais et qui ont quand même eu des licenciements assez massifs. Alors que c'est tous ces studios-là, pour le coup, quand chaque fois j'en entendais parler, c'était toujours de la croissance, du recrutement, des nouveaux studios, des nouvelles entités qui s'ouvraient à gauche, à droite dans le monde. Et là, bon, ils doivent rétrécir un peu et d'en faire un peu machine arrière quoi donc bon. Mais voilà. Après ce qui est bien c'est que tu vois sur LinkedIn je vois toujours des posts hyper positifs d'autres gens de l'industrie qui disent qui mettent des messages pour que les gens postulent et ils disent quoi là qui s'ouvrent la porte à tous les gens qui sont touchés par les licenciements pour qu'ils puissent venir travailler dans les studios quoi donc ça c'est plutôt positif et c'est quelque chose d'assez rare, je trouve, dans les autres industries. Enfin, après, peut-être que je suis trop ancré jeu vidéo pour voir peut-être dans l'autre industrie, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose. Parce que c'est pas parce qu'une startup ferme, par exemple, tu vois, qu'une autre startup va dire, ouais, venez chez nous, quoi. Tu vois, je vois rarement des messages
Ouais, ou alors c'est qu'ils sont copains et ça se dit pas, mais ça se fait
sans se dire, ouais, peut-être. Mais alors que
sans
là,
se
tu vois,
dire. Ouais.
sur l'industrie du jeu vidéo, je vois souvent des messages dès qu'il y a une annonce de fermeture studio, licenciement, il y a d'autres studios qui prennent le soin de mettre un message en disant, si vous êtes touché, n'hésitez pas à apply chez nous, on a des postes pour vous, quoi.
Ouais, mais complètement.
Donc ça, c'est la solidarité, donc c'est vraiment top. On passe à la news suivante que tu t'avais repérée, je trouvais ça super intéressant, c'est plus du côté un peu e-sport, et
Est-ce
on
que tu veux
parlait
que je te présente la news?
on va parler de briques ou de cubes, comment on peut appeler ça?
Ouais, on va parler
Des
de
pièces?
briques, effectivement, ouais. On va parler des plus vieilles briques du monde du jeu vidéo, peut-être. On va
Ouais.
parler de Tetris. Et en fait, Tetris, c'est quelque chose d'assez particulier dans l'univers du jeu vidéo, parce qu'il a toujours, encore aujourd'hui, donc on parle d'un jeu qui est sorti le 6 juin 1984, et on a du coup un jeu qui est encore aujourd'hui extrêmement soutenu. Dans sa première version, on ne parle pas des autres versions de Tetris qui sont sorties, les arcades, enfin bref, dans tous ceux qui ont essayé de réinventer le genre. Là, on parle vraiment de l'original. Et en fait, tous les ans, il y a les championnats du monde de Tetris. Et jusqu'à il y a quelques années de ça, on avait toujours le même champion qui a été consacré 16 fois champion de Tetris, qui a été battu en 2019, je crois, ou 2000, ouais, je crois 2018 ou 2019, par un jeune Indien de 16 ans qui a gagné grâce à une technique qui s'appelle le Hyper Taper, qui consiste en fait à marteler les touches de la manette NES pour aller jusqu'à du 10-12 clics secondes, ce qui permet à un certain niveau de Tetris de placer ses briques et de continuer à faire ses lignes et de ne pas perdre. Et ça, en fait, ça a vraiment été la première révolution. Et donc là, aujourd'hui, il y a donc une vidéo qu'on vous mettra en lien qui montre en fait une toute nouvelle technique qui en fait vient de décupler les gains et l'avancée dans le jeu de Tetris, qu'ils ont appelé ça le rolling. Alors, le rolling, en quelques mots, vous tenez votre. Si vous avez votre smartphone là devant vous, prenez-le, vous le mettez en format paysage. Vous imaginez que c'est votre manette de Super Nintendo, de Nintendo, pardon. Et en fait, vous allez maintenir votre pouce comme s'il était sur la touche A. Et avec l'autre main, vous allez venir dérouler vos doigts. Les uns après les autres derrière pour taper avec chacun de vos doigts. Et donc c'est ça qu'ils appellent le rolling, c'est la capacité à frapper l'arrière de la manette de manière très rapide et que le choc répété appuie sur les boutons avec votre autre main qui cale la manette. Et donc on arrive jusqu'à du 20 clics par seconde, enfin, du 20 touches par seconde.
Ok, mais écoute, moi tu vois, j'ai découvert la vidéo hein, quand tu me l'as envoyée parce que j'étais pas du tout là-dedans, je suis pas trop branché e-sport. D'ailleurs, tu vois, j'en parle pas trop d'habitude sur le podcast. Et puis, mais je trouvais la news hyper intéressante parce que en fait, c'est l'appropriation aussi des joueurs d'un gameplay que les gars qui ont créé Tetris, je suis sûr qu'ils n'ont jamais pensé qu'un jour ce serait que des gens puissent jouer comme ça, quoi.
Ah ben bah complètement. Et ça, c'est même sûr ce que tu dis, parce que du coup, il y a le fameux niveau 29 ou 49 qui est fait de telle sorte à ce que tu sois en game over. C'est-à-dire qu'il est tellement rapide que du coup, le but, c'est que si tu arrives ce niveau, c'est comme si tu avais fini le jeu. Et donc, du coup, les développeurs n'ont pas imaginé autre chose. Et ça se sent dans le fait que chaque niveau, la vitesse augmente. Sauf au 49, ou le 29, partons du principe que c'est le 49, où là, tu as un plateau. Et ouais. C'est là où du coup l'hypertaper et le rolling viennent, c'est-à-dire que ce plateau de vitesse devient maîtrisé et ils vont de plus en plus loin. Et on dit que chaque année, donc oui, parce que c'est en 2022, donc 2022 et 2023, les records du monde de points de Tetris s'augmentent par paquet de millions. Donc on est vraiment sur une grosse performance. On est maintenant, je crois, niveau 150 sur Tetris.
Ah ouais, ouais, d'accord. Non, mais ça a vraiment fait un gros gap dans la progression, quoi,
incroyable.
Dans le secteur. Et en fait, ce qui est intéressant, ouais, c'est ça, c'est l'appropriation vraiment des joueurs sur les mécaniques de base, quoi, que en tant que développeur, on peut penser. Enfin, tu vois, il y a toujours l'exemple, moi, ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est dans les versus fighting, les Street Fighter et tout, ce qui est beaucoup utilisé, c'est les combos. Et les combos, à la base, c'est pas des choses qui étaient prévues. C'est vraiment les joueurs sont aperçus qu'en faisant assez vite sur la manipulation des coups, ils pouvaient sauter des frames et enchaîner les coups sans que l'autre joueur puisse riposter. Et cette mécanique-là, tu vois, les devs n'avaient pas forcément prévu ça. Et quand ils sont aperçus que les joueurs utilisaient beaucoup, ils se sont dit bon bah tiens, on va l'inclure dans nos gameplay, et du coup maintenant les combos sont beaucoup plus évolués, il y a beaucoup plus de choses et tout, mais c'est des choses, enfin c'est un peu des gameplay émergents près de la limite, on va dire. Et là, ce qui est fou, t'en parlais un peu, c'est aussi le côté de l'usage du hardware là, carrément sur le cas du Tetris, où ouais. En fait ça marche pas avec tout, quoi. C'est ce que je...
et puis donc on est quand même 60 ans plus tard,
ouais, c'est quand même énorme.
40 ans plus tard, pardon, excusez-moi. On est 40 ans plus tard et on se retrouve quand même avec la même manette. Rien n'a changé, mais juste on pense outside the box et on se dit comment je peux faire pour optimiser ? Et ils viennent à trouver ça. Et ce que je trouve génial, le plus, c'est que c'est pas des gars de 30, 35 ans qui jouent déterminés depuis 10 ans. Non, c'est des mecs de 15 ans. 15, 16 ans, qui arrivent et qui disent « Regardez, moi j'ai ça, et je vais maintenant conquérir les championnats du monde de Tetris. » Et il le fait. Et du coup, maintenant, les hypertapers, il n'y en a plus. Ceux qui étaient à l'apogée de l'hypertaper sont passés sur le rolling, et le DAS, alors le DAS, c'est nous, hein, c'est-à-dire ceux qui jouent complètement à la manette. Alors ça, on n'en parle même plus. Hein. Celui qui a gagné 16 fois, c'était un DAS. Ouais. Les hypertapers ont eu leur heure de gloire, et maintenant, c'est le rolling. Et du coup, la question, c'est que dans 10 ans, qu'est-ce qu'on aura?
C'est vrai que quand tu es dans le secteur de l'e-sport, tu vois des évolutions, c'est fou aussi. Tu vois, enfin, à titre perso, bon, c'est vraiment, je ne suis pas du tout un gros sportif. Je suis beaucoup dans le versus fighting. À l'époque, je me rappelle de Soul Calibur, quand j'ai gagné des tournois, tu vois, de Soul Calibur. Et local, hein, tu vois, j'étais assez, j'étais pas trop mauvais et tout. Et sur Lyon, et puis un jour, il y a un tournoi, je gagne tout le monde et tout, et il y a plein de gens. Et tu vois, j'avais toujours la même technique. technique de jeu, etc. Et ça marchait plutôt bien. Et l'année d'après, il y avait un tournoi qui s'est. Du coup, j'ai pas reparticipé à ce même tournoi, dans le même contexte, et je me suis fait allumer. J'ai même pas pu réussir à passer les éliminatoires parce que tout le monde s'était entraîné avec une nouvelle façon de jouer, tu vois, que j'avais pas du tout moi suivi dans les tendances de façon de jouer, alors que c'est le même jeu, hein.
Ouais.
C'est juste la tendance de ce jeu et combinaison de coups avait complètement changé et j'ai pas réussi à passer cet éliminatoire tellement je comprenais pas comment les gens jouaient. Ils avaient évolué, ils étaient vraiment entraînés. Hein. Les gars m'avaient dit, bah, ils étaient entraînés avec le champion de France de tout calibre et tout ça. Enfin bon, ils montaient tous en un an à un niveau 10 fois plus élevé que moi et c'est vrai que même même sur un même jeu, les tendances du jeu peuvent complètement se changer la donne. Et là, sur un Tetris qu'on voit de 1984 à 2021, voire 2022, les changements de style de gameplay, c'est ouf quoi. Et ça, en tant que concepteur, je sais même pas si tu peux prévoir ce genre de choses quoi dans le game design ou tu vois,
Ah, oh bah non, non,
tu
non.
n'as
Mais
aucun.
c'est aussi ce qui fait toute la beauté de ce genre d'événement. Parce que, et du coup, juste pour boucler là-dessus, c'est aussi ce qui fait la beauté des speedruns pour moi. C'est-à-dire que vraiment, les mecs, ils vont trouver le moyen de contourner ce qu'ont fait les développeurs pour optimiser chaque frame.
Ouais, non, mais complètement. Et en plus, là, en plus, sur le speedrun, des fois, ils usent même des bugs
Ouais.
qui sont du jeu. Donc, ouais.
Bien sûr.
Parce que là, ouais, c'est vrai que pour le Tetris, du coup, c'est même pas un bug. Hein. C'est vraiment l'usage classique du jeu, sauf avec des
Eh ben,
mécaniques un peu différentes, quoi.
ouais, mais parmi les speedruns le plus connus, alors je diverge un peu, mais parmi les speedruns le plus connus, il y a ceux de Mario 64,
Ouais.
où en fait tu fais une technique avec Mario qui va un peu faire comme Sonic et puis qui va partir en arrière très
Ouais.
très vite et très loin. Et en fait, là, ils utilisent le manque de capacité de la Nintendo 64 qui n'est pas assez rapide pour charger les décors au fur et à mesure, parce que la caméra elle est derrière, et donc du coup ils traversent tout parce qu'il y a juste plus de décors. Et donc là aussi, en fait, ils prennent en compte la mécanique et le hardware derrière
Ouais, c'est
pour aller plus loin.
Ouais. Ok, bah c'est assez cool. Attends, je vois juste un petit peu. Hop. J'ai juste toussé. Je couperai ça au montage. voilà. Ok, cool. Mais merci pour la news, Benjamin. Donc, c'était vraiment intéressant de découvrir ça. C'est pratique. Je te propose qu'on avance sur la news suivante avec Epic Games qui a failli faire une Unity.
Ouais, complètement, hein, c'est fou.
Il était pas loin. Ouais. Qui était pas loin, ouais. Franchement, ça commençait à. Mais ils ont vite. Ils ont, je pense, dû apprendre des erreurs de leurs collègues d'Unity et se dire, mince, on va pas laisser trop pourrir la situation, on va vite intervenir. Parce qu'en gros, il a commencé à avoir des rumeurs de changement de tarifaire sur le moteur d'Unreal Engine de côté d'Epic. Je sais pas si tu veux un peu en parler, ce que tu as pu voir.
Ben, du coup, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que donc on a parlé en long, en large et en travers de Unity et du Storm Sheet qui se sont pris à juste titre. Mais là, du coup, on se retrouve là le storm il s'est calmé un peu. Mais du coup, on se retrouve maintenant avec Epic Games qui pointe le bout de son nez en disant, alors en fait, nous aussi, on a des problèmes d'argent et nous aussi, on a changé des trucs. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça bien, nous. Donc c'est assez
C'est
drôle
assez
finalement.
ouais parce que bon il y a eu quand même quelques personnes qui ont un peu surfé ont profité un peu du shitstorm d'Unity pour dire bah, regardez venez chez
Ouais.
nous c'est plus cool mais finalement est-ce que c'est vraiment plus cool chez les autres c'est vrai que souvent quand on me demandait bah, par rapport à tous ces trucs d'Unity et tout est-ce qu'il y avait des alternatives clairement tu vois quand les gens me disaient est-ce qu'il faut aller sur Unreal Engine moi j'étais pas forcément tu vois c'est pas forcément la réponse à laquelle je pensais en premier et c'était plus bah, essayer plutôt Godot quoi si plus c'est plus la réponse que je donnais et donc voilà après c'est vrai que c'est pas aussi catastrophique parce que finalement oui l'annonce que enfin c'est des rumeurs enfin c'est pas vraiment des rumeurs c'est pendant une conférence il y a une personne de la communauté des développeurs qui avait assisté à une annonce de Tim Sweeney affirmant qu'ils allaient tarifer ils allaient facturer par siège donc en fait il fallait avoir une licence jusqu'à présent en fait utiliser Unreal Engine Engine, c'est gratuit. Tout le monde pouvait l'installer, c'était gratuit. Tout le monde pouvait l'utiliser. Si vous faisiez lancer un jeu, ou même si vous travaillez avec et que vous faisiez rien, concrètement parlant, tant que vous ne gagnez pas $1 million, vous n'avez rien à reverser à Epic Games. C'était ça le deal. Et notamment, bah, du coup, le moteur Unreal Engine était tellement bien présent, ancré, formé dans les écoles, etc., que de plus en plus de gens commencent à l'utiliser, même dans l'industrie bah, automobile, architecture, le cinéma. Ouais, le cinéma. Et moi, je connais pas mal de gens pour faire des visites virtuelles, etc. C'est clair que t'as ton scène dans Unreal Engine avec tous les setups des lights et tout ça, out of the box, c'est un truc qui cartonne, quoi, qui est vraiment super sexy et qui donne vraiment envie de voilà, présenter un projet dans Unreal Engine, c'est quand même classe. Et toute cette industrie est passée un peu en travers des mal du mal défini des pics parce qu'ils ne versaient quasiment rien, ils ne payaient quasiment rien par rapport à ce qu'ils pouvaient en tirer. Et,
alors, qui est la base de la réflexion de la modification du côté d'Unity d'ailleurs. C'est-à-dire ouais. que, notamment avec Genshin Impact, qui donnait très peu par rapport à ce qu'il gagnait, et Unity s'était dit, mais il y a peut-être un truc qui ne va pas en fait.
C'est ça, ouais. C'est parce qu'il y a autant il y a des gens qui payent et tout. Bon, ils payent, c'était à peu près proportionnellement, correspondait. On peut dire bon, c'est raisonnable. Autant, bah, il y a des boîtes qui gagnent beaucoup toujours en payant comme les petits, quoi. Donc là, Epic s'est dit bon, est-ce que faudrait pas aussi facturer ces gens dans l'industrie plus B2B pour business to business, quoi. Donc qui vendaient pas forcément des jeux, qui faisaient des services, qui développaient des applis, des choses comme ça, mais qui brassaient beaucoup d'argent mine de rien et qui payaient pas grand chose à Epic. Donc parce que vu qu'ils sortaient pas de jeux et qu'ils faisaient pas le jeu rapportait pas plus d'1 million, peut-être. Tu vois, donc il y avait pas cette tarification là. Donc ils se sont dit comment on peut faire pour que ben, ces industries-là puissent aussi payer. Et donc, l'idée, c'est de remettre en place un coût par licence, par utilisateur, qui est un peu identique à ce que fait Unity déjà. Donc, en gros, t'as un clavier mécanique, je pense, Benjamin. Donc, on entend, je l'entends beaucoup, le clavier sur lequel tu tapes.
Excuse-moi, j'ai coupé le micro. Excuse-moi, je pensais que j'ai coupé le micro.
Mais du coup, c'est... C'est aussi ouais, le côté de dire community, bah, on va facturer par siège les utilisateurs du moteur Unreal Engine. Donc il y a beaucoup de gens au début qui ont commencé à avoir peur parce qu'ils n'avaient pas précisé Tim Sweeney pendant sa conférence que ça concernait que cette industrie-là. Donc tout le monde s'est dit mince, donc du coup moi, je fais un jeu sur Unreal Engine, maintenant je vais être coincé, je vais devoir payer des licences par siège. Et c'est là où ils ont vite éteint l'incendie en disant non, ça ne touche pas les développements de jeux. Toute l'industrie du gaming est en dehors de ces changements tarifaires et en plus alors ce que fait quand même bien on va dire Epic Games, c'est que si tu utilises la version d'un moteur de Unreal Engine, tes accords d'utilisation sont liés à cette version du moteur, donc ça ne va pas changer quoi, ce ne sera pas rétroactivement changeable, ou si tu restes sur cette version de moteur tu n'auras aucun souci, même pour l'industrie pour l'industrie automobile ou le cinéma etc, si tu restes sur une vieille version de Unreal Engine, ils n'auront pas à payer quoi que ce soit non plus. Donc, ça, c'est plutôt fair, on va dire.
Ouais. Bah, du coup, ils ont très, très bien appris la leçon de Unity, quoi.
Oui, exactement. Et que du coup, ces changements tarifaires interviendront que sur des nouvelles versions du moteur et que pour l'industrie, et surtout, il y a toujours comment ils appellent ça, là, le premier million gratuit, quoi. Enfin, ouais. Si tu gagnes moins d'1 million, tu devras toujours rien à Epic Games. Donc, même si tu es en dehors de l'industrie du gaming et tu utilises le moteur Unreal Engine et que tu gagnes toujours pas 1 million, tu ne dois rien à Epic Games. À partir d'1 million, c'est toujours cette taxe de 5% qui est appliquée sur les revenus qui sont générés par ta boîte, quoi.
Et ça, c'est à effectif quand? 2024.
Alors, ils sont encore en discussion. Il n'y a pas eu d'annonce vraiment officielle qui a été publiée. Ils ont surtout fait des annonces pour éteindre l'incendie, pour dire vers quoi ils sont en train de réfléchir. Et justement, ils se justifient parce que ça arriverait sûrement, oui, l'année prochaine. Mais la justification derrière, c'est ce que tu disais, c'est qu'en gros, ils ont moins d'argent. Ils ont effectivement licencié des gens il n'y a pas si longtemps que ça, donc ils avaient fait l'annonce de séparer 16% du staff et maintenant ils se disent il faut qu'ils vont gagner plus d'argent, il faut qu'on rentabilise plus, donc où est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent? Dans ces industries un peu annexes aux jeux vidéo et surtout leur vache à lait qui était Fortnite rapporte beaucoup moins d'argent et donc est beaucoup moins rentable, donc ils sont en train de chercher d'autres pistes, quoi. Mais oui, ça n'interviendrait pas l'année prochaine, oui, je pense.
Fortnite qui en est à sa 6e année, si je comprends bien, et qui reboucle un peu sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec les gaz. 6 ans, c'est ouf.
6 ans, c'est énorme. Après, tu vois, ça marche toujours. Et ça... c'est quoi, 15, 16 ans? C'est encore plus vieux. Et t'as encore des t'as encore des abonnés, quoi. Donc, beaucoup moins qu'à une époque. Mais ouais. Et c'est tous ces gamins de service. Ouais. C'est toujours impressionnant. Donc voilà, ils sont en train de réfléchir à des choses sur comment rendre ça rentable et ça fait partie de ces changements tarifaires pour remonter un peu la pente chez Epic Games. Dernier article, dernière news, peut-être Benjamin sur un super article hein, d'ailleurs qui m'a été, que je remercie Cyril hein, qui m'a envoyé le lien de l'article qui m'a beaucoup inspiré, je t'avoue, parce que c'est des réflexions que j'ai ces derniers temps aussi. C'est alors j'ai traduit ça de l'anglais au français. Alors je sais pas comment on peut mettre. Je trouve qu'en anglais ça passe mieux. C'est le missing middle, parce que en anglais ça s'appelle le missing middle dans l'article. Dans le développement de jeux, en français, j'ai traduit ça par un manque de jeux intermédiaires. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction, tu me diras, Benjamin.
Je pense qu'en tout cas, ça se comprendra mieux quand on aura déroulé l'article.
L'explication, ouais. Alors, pour résumer, c'est quoi ? C'est on a des jeux AAA sur le marché.
Depuis un petit moment.
Voilà, depuis un petit moment, des blockbusters avec des coûts de production à plusieurs millions. D'euros, de dollars à développer qui prennent plusieurs années, voire des fois, parce que je sais pas, il y a des prods qui durent presque 7, 8, 9, 10 ans à sortir, voire peut-être même plus, je sais pas. Si on compte Duke Nukem Forever, ça fait plus de 10 ans ou pas, je sais pas, avec tous les reboots et tout.
Ouais, 10 ans, ça fait beaucoup quand même.
Mais il y a des prods qui durent assez beaucoup plus que, ouais, des fois qui se rapprochent des 10 ans, hein, mine de rien. Et à côté de ça, on a des jeux qui sont faits en jam, qui durent 48 heures en coup de dev, qui sont pas, qui prennent pas beaucoup de temps, qui sont moyennement finis, qui sont shippés souvent sur itch.io.
Ouais, c'est des prototypes.
Ouais, c'est des prototypes, ouais, qui sont jouables, qui sont marrants, mais qui ont pas d'ambition. Commercial, la plupart du temps, ça reste des petits protos à jouer gratuits. Tu peux télécharger, tu t'amuses et puis voilà quoi. Enfin, tu t'en fais pas grand chose.
Ce que dit le site, c'est que souvent la durée de vie d'un projet de jam, c'est on fait la jam, on en est content. Si la jam s'est bien passée et qu'on est content du prototype, on le met sur itch.io. Et sur itch.io, si on voit que ça a un petit engouement et que les gens sont contents d'y jouer et qu'ils font des retours positifs, alors du coup, les gens ils se disent « Ok, là, je tiens quelque chose et maintenant, je vais partir sur un développement de 2 à 3 ans pour en faire un jeu parfait. »
Ouais. Et sinon, bah, ça reste mort, quoi. Ça rejoint le cimetière des jeux qui sont pas updatés, qui sont là quand même présents. Tu peux jouer avec, mais voilà. Mais moi, le premier, hein, tous les jeux de jam que j'ai fait sont là, qui traînent quelque part sur Itch.io, mais je les mets pas à jour parce que j'ai pas forcément envie de continuer à m'investir sur ce jeu, quoi. C'était cool à faire, mais j'ai pas envie de les continuer. Ça m'a permis d'apprendre des skills, des choses comme ça. Et du coup, dans l'article, ils disent bah ouais, mais est-ce qu'il manque pas un truc entre les deux ?
Ouais. En fait, est-ce qu'il manque, en fait, où est le juste milieu entre le jeu de jam qui se fait en 48 heures et qui coûte rien parce que c'est gratuit et le jeu à 3 ans qui va avoir un coût aux alentours de 300 000 euros en fait. Et puis surtout, ce qui met en exergue, c'est le côté tu vas passer 3 ans à faire un jeu. Et tu vas peut-être avoir que 10 000 à 15 000 euros de bénéfices derrière, parce que la tendance des jeux sur Steam, elle montre que les jeux de qui sont payés, qui coûtent plus de 10 euros, rapportent combien ? 17 000 dollars, quelque chose comme ça ? Alors ça reste une moyenne, ouais. Et qu'après il fait un parallèle avec le subreddit Game Dev où si tu fais moins de 40 000 euros sur ton jeu ou moins de 100 000 euros sur ton jeu, c'est un échec. Donc c'est vrai qu'il y a une philosophie un peu difficile du monde de l'indé où on est tous bercés d'illusions parce qu'il y a plein de success stories que l'on connaît tous, qui sont mis en avant et qui disent que vous aussi vous pouvez le faire, et du coup on se croit tous qu'on va devenir millionnaire parce qu'on va faire un jeu indé qui va cartonner. Et pour faire un jeu indé qui cartonne, eh ben, il faut passer 3 ans. C'est un peu décrit cet article. Et donc lui il dit mais attendez, prenez du recul. Alors tout son article est basé sur ID Software et comment eux, ils ont géré ça.
Ouais, John, il parle de John Romero qui, dans les années
Voilà.
90. En fait, moi, ce que je trouvais parlant, en fait, c'est que dans les années 90, ils arrivaient à faire avec du software 13 jeux en un an. C'est
C'est fou, hein.
quand même énorme, enfin, en un an. Et ce qui est intéressant dans son point, c'est qu'ils disent, bah oui, en plus, dans les années 90, on n'avait pas tous ces moteurs de jeu, tous ces middleware, enfin, techniquement, il y avait beaucoup moins de choses, un peu clé en main. C'était quand même difficile avant. Enfin, tu voulais faire un jeu vidéo, il fallait tout coder, quoi. Dans tes moteurs de rendu, tes moteurs, tout ton stade technique, ton moteur, il fallait que tu le fasses. Soit tu avais déjà commencé à bosser dessus, et donc tu avais des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer pour itérer, etc. Bon, c'est ce qu'il faisait, hein, John Romero. Et soit il fallait tout refaire. C'est quand même énorme. Et en plus de ça, tu n'avais pas tous ces systèmes. Bah, t'avais pas, Internet n'était pas là, quoi. Enfin, il existait, mais c'était pas démocratisé, c'était pas accessible au grand public.
Ah, puis même quand il a commencé, ça n'existait pas du tout. Même quand début
Si.
90.
Ouais, ça date d'avant, mais en fait, t'avais pas. Enfin, c'était réservé qu'à l'armée, c'était des
Oui,
systèmes
voilà,
d'information, voilà, qui n'étaient
l'université,
pas
tout
du tout
ça.
grand public. Ouais. Mais du coup, c'était quand même pas aussi facile de communiquer avec des gens, avec tu vois, qui étaient à l'autre bout de la planète, etc. Donc, même pour avoir accès à l'information, c'était pas simple, quoi. Et là, ils ont quand même réussi. Ils sortaient quand même 13 jeux par an. Après.
Ouais, et puis ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils avaient un accord avec les publishers qui, en fait, eux sortaient des CD avec plein de petits jeux et ou démos, et que du coup, pour chaque, ils avaient un accord qui leur disait, bah voilà, vous avez un jeu, on peut le mettre sur notre CD, on vous donne un flat fee, donc un prix fixe, qui va être de 5 000 $. Pour chacun des jeux que vous allez nous donner. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gars, ils se sont dit, bah tiens, comment on peut faire pour en faire 13 dans l'année?
Ouais.
Et l'autre chose aussi sur cette période que j'ai beaucoup aimé dans l'article, c'est qu'ils disent, bah voilà, en fait, ils ont fait 90 jeux, enfin, John Romero a fait 90 jeux, enfin 89 jeux avant de faire Doom, qui était le 90e. Enfin, si je dis pas de bêtises, ou le 19e.
Je sais plus exactement, ouais.
90 ou 90, je sais plus, bon bref.
Ouais.
Et en tout cas, ils en ont fait beaucoup. Et ils disaient, bah, en fait, tous les autres jeux, l'argent qu'on a gagné, en fait, c'est comme si on avait financé notre R&D pour arriver jusqu'à ce jeu-là qui a vraiment explosé tout et qui est juste le produit fini de toute l'expérience passée.
Ouais, bah oui, c'est ça, et de construire un peu comme, ouais, petit à petit, c'était les différentes briques pour arriver à faire le jeu qui cartonne, quoi. Et c'est vrai qu'après, souvent, bah, on a cette vision, hein, comme tu disais, de bah, si tu fais que 10 000 euros avec ton jeu, bah, c'est un échec. Alors que pourquoi c'est un échec? Enfin, si t'as pas passé énormément de temps, et même si c'est que la première brique de ton plus gros jeu, ben il faut le voir quand même quelque chose d'assez positif et dire bon, ben, c'est les 10 000 euros que tu peux qui couvrent tes premières dépenses et que tu peux réinjecter pour faire ta deuxième brique, ta deuxième couche de ta techno, ton jeu, pour aller chercher encore faire quelque chose de mieux et d'aller chercher encore plus de revenus, quoi, plus de rentabilité par la suite. Et c'est vrai que cette vision-là, du coup, pour dire, bon, maintenant, c'est un échec, j'arrête le jeu vidéo parce que de toute façon, j'ai fait un truc que j'ai pas réussi. Bon, je pense qu'on est tous passés par là. Donc, ça est des fois un peu décourageant. Et alors que finalement, il faut le voir pas forcément de côté négatif. Mais après, son article est intéressant. Moi, je trouvais, enfin, moi, ça me fait, tu vois, ça me parle beaucoup. Mais en même temps, oui, les attentes ont tellement changé. Est-ce que c'est toujours
C'est
viable
ça.
de dire,
C'est
bah
ça.
voilà, c'est ce que tu me disais un peu avant là, qu'on enregistre, c'est est-ce que c'est toujours viable de se dire, bon, bah, je peux refaire des jeux indés comme dans les années 90 et ça va marcher, quoi.
Ouais, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des jeux. Alors, si je prends, on va dire juste Vampire Survivor. Vampire Survivor, quand on regarde la patte graphique, on voit bien que ça pourrait très bien être un jeu des années 90. Il n'est pas beau. Il a ce côté que moi je dirais pas joli. Après. Ça peut être très intéressant pour certains, mais moi je trouve que ça a une patte qui quand même n'est pas la patte d'aujourd'hui comme on peut avoir avec du pixel art full HD ou quoi, qui est vraiment
Oui,
très
bien
joli.
sûr, c'est très rétro, ouais.
Bon, bah ce jeu effectivement, il sort, il a une success story, ça fonctionne et il fait un jeu rapide. Bon bah ça d'accord, mais si on s'écarte de ce genre de jeu et qu'on imagine on fait un jeu en France à quoi, trois personnes, quatre personnes qui sont tous payés et sur 6 mois. Bah, si tu fais 10 000 euros, ça fait longtemps que tu les as mangés, tes 6 mois, tes 10 000 euros. Donc, voilà, y a ça aussi, quoi. C'est comment on fait? Comment on fait?
Ouais, c'est peut-être que ça marche pas dans tous les tous les pays ou toutes les réalités économiques. Il y a des choses qui ont effectivement augmenté. On parlait dans la première news du coût de la vie, l'inflation et tout ça
Ouais,
qui est
bien
plus du tout
sûr.
la même. Est-ce que tu peux encore vivre du jeu vidéo? Oui, je pense que oui, hein, je
Oui,
pense que
oui.
toi aussi, tous les deux, on partage cette
Bien sûr.
vision-là. Après, trouver le bon modèle économique, la bonne vision, la bonne stratégie, ça, c'est ouais. C'est pas simple, mais il faut trouver des choses qui s'adaptent aussi, je pense, à l'équilibre de vie de chacun aussi, quoi. Et il y a peut-être, bah, tu vois, il y a des gens qui vont plus être amenés à dire, bon, bah non, mais moi je préfère créer des petits jeux en étant en side project, en ayant un boulot à plein temps à côté. Ou d'autres vont dire, bon, bah voilà, moi je préfère aller faire des levées de fonds, ou des investisseurs, ou des, tu vois, des prêts, etc., pour aller vraiment monter un studio à fond et on y va. Il y a d'autres modèles aussi, hein, de dire, bah, on fait de la presta en même temps, on crée des jeux. Enfin, je pense qu'il faut que chacun trouve l'équilibre qui correspond aussi à ses envies et à ses envies, je
Et à
pense,
ses
ou pas,
ambitions,
ses
et à ses
ambitions.
ambitions. Et voilà. Mais par contre, ce qu'il y avait d'intéressant, si on met de côté l'aspect économique et la possibilité de reproduire ce qui faisait dans les années 90, ce qu'il y a de super intéressant, c'est vrai, c'est cette approche du missing middle, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu la façon de créer des jeux vidéo, ce qui, mine de rien, reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec peut-être une baisse des attentes des joueurs en termes de jeu. Peut-être que là, on peut trouver un parallèle, enfin, en tout cas, un pont. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est, OK, j'ai mon entreprise, je vais développer des jeux. J'ai besoin de dire que je suis capable de faire des jeux. Ça, c'est quand même la première brique d'un studio de développement, c'est-à-dire, je suis capable de shipper un jeu. J'ai une vision, j'ai réussi à la concrétiser et je montre que j'en suis capable. Alors, je le montre à qui? Bah, je le montre aux éditeurs et aux publishers et aux autres joueurs aussi. C'est-à-dire que les gars, ils savent que, OK, cette entreprise a déjà réussi à finir un jeu. C'est peut-être un échec, c'est peut-être pas fou, ou alors c'est peut-être un succès, mais quoi qu'il arrive, ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Maintenant, avec plus d'expérience et avec un peu plus de budget, peut-être qu'ils sont capables d'aller beaucoup plus loin que dans la situation précaire qu'ils étaient pour leur premier jeu. Ça, je trouve ça déjà intéressant d'avoir ça en tête. Et la deuxième chose intéressante, c'est une phrase, c'est ce que je te disais en off là, c'est il y a une phrase qui m'a bien plu, c'est qu'ils disent, vous pouvez sortir plusieurs jeux par an. Et il n'y a pas de règle qui dit que on doit faire un jeu tous les 2 à 3 ans. Et ça, j'aime bien. Et c'est vrai qu'avec Lucid Factory, c'est un peu la vision qu'on a, c'est-à-dire qu'on développe à la fois notre gros jeu, donc Inulo Has Fate, et on développe aussi un autre jeu avec un plus petit scope qui se fait en parallèle. Et si tout se passe bien, en 2024, on va sortir ces deux jeux. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui est rassurant déjà d'entendre dire que bah, c'est quelque chose qui se fait, parce que c'est vrai que sur, je sais pas toi si tu as entendu des gens qui sortent plusieurs jeux à la fois, mais c'est compliqué.
Non, c'est
Enfin,
rare.
ouais,
En tout
voilà.
cas, autour de moi, c'est plus tu te focus, tu sors. Alors moi, je suis plus partisan aussi de multi-projets parce que je pense que c'est que comme ça que tu peux avancer et tu peux pas avoir la science infuse de dire bah, le jeu que tu fais, il va cartonner, quoi. Donc, tu as besoin de tester aussi, voir si tes idées prennent ou est-ce que c'est un potentiel, etc. Et c'est pour ça que j'aime les jams, par exemple, tu vois, où finalement, tu limites ça à 48 heures et c'est pas mal. Et là, ce qui est compliqué quand tu es sur plusieurs prods en même temps, c'est d'avoir les ressources, l'énergie et le contexte switch qui est pas forcément très facile pour tout le monde. Donc, il faut être assez à l'aise avec ça. Je sais
Faut
que,
être bien organisé, ouais.
ouais, organisé, et puis même avoir le mindset pour ça, parce que je sais que par exemple certains devs ils peuvent pas, quoi, tu vois. Tu peux pas
Ah, tu
juste.
veux dire de switcher d'un projet à un autre?
Ouais.
Ouais, bien sûr.
Ouais.
C'est vrai que des fois, la concentration, elle est morcelée et c'est compliqué.
Ouais. Et ça, si t'as pas cette gymnastique depuis, enfin je veux dire, dans je sais pas, dans l'apprentissage ou dans ton mode de vie, c'est un peu compliqué, je trouve. Tu vois, moi je fais tout le temps le context switching, tu vois, je peux parler de business, de marketing, de compta, de légal, de machin, et de changer d'un sujet à l'autre. Après, je suis pas hyper performant d'un coup, je veux pas être le plus impactant, il faut peut-être quelques secondes pour rentrer dedans, mais tu vois, je j'arrive à le faire, mais je sais que tu vois, c'est pas forcément des choses par mon expérience. J'ai vu dans, voilà, surtout dans le côté dev, où tu es en train de faire un truc, tu demandes de changer de contexte à quelqu'un, des fois, ça, c'est difficile, quoi. Je dis, non, non, attends, je préfère finir ça, je peux pas changer ça et tout, etc. Donc, c'est hyper dur. Donc, si tu as les ressources pour, oui, tu vois, c'est facile, et où tu as les bonnes personnes, mais sinon, je trouve ça compliqué, hein, de faire plusieurs projets avec la même équipe, on va dire.
C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas que le deuxième soit aussi gros que le premier.
Ouais.
Et après, c'est une question de répartition. On fait les deux en parallèle, mais il y a des segments où en fait, on va être tous sur le même jeu et pendant longtemps. Et après, donc l'autre subit une pause, puis après on le reprend et ainsi de suite. Donc
Ouais.
ouais, il y a
Et
c'est
cette
voilà. Puis après,
gymnastique à avoir, ouais.
et puis on tâtonne. Enfin, je veux dire, nous, c'est notre enfin, c'est nos débuts. On a l'expérience passée, mais on a là maintenant, on est dans le concret et on tâtonne. Peut-être qu'en 2025, on fera autrement.
Ouais, non, mais oui, c'est ça, il faut aussi s'adapter un peu. Mais moi, j'aime bien, en tout cas, cet article, se dire, bah, voilà, essayez de viser des jeux un peu au milieu. Faites
Ouais.
pas forcément, on va, voilà, pousser vos jeux de jam s'ils sont bien, à aller plus loin, ou faites des jeux un peu intermédiaires et il y a un marché pour ça, donc c'est sûr qu'il n'est pas aussi gros que les marchés triple A ou même si on prend des jeux indé classiques, quoi, même si on prend des jeux comme voilà des jeux qui sont faits avec plusieurs années, donc qu'on peut voir qui sortent, qui ont 2, 3 ans de développement, mais il y a peut-être quelque chose à faire entre les deux, quoi, entre 48 heures et les 3 ans, il y a peut-être des choses qui peuvent être faites en 2, 3 mois, par exemple,
Ouais,
ou 6 mois,
complètement.
on s'en fout, quoi. Donc,
En tout cas, allez lire cet article
ouais.
parce qu'il ouvre des portes mentales de réflexion et ça, c'est bien. Et il pose un autre regard sur notre industrie et en faisant un parallèle avec ce qui existait avant et ce qu'on a un peu perdu en cours de route dans la recherche de la performance.
Exactement, ouais. Que t'as pas forcément besoin d'aller toujours plus loin, toujours plus de features, toujours plus de choses. Et je suis vraiment content. Tu vois, j'adore en plus le genre comme de jeu comme Vampire Survivor ou là récemment j'ai vu passer un jeu là sur Steam qui m'a vraiment bluffé. Je crois que ça s'appelle. Je suis tombé dessus. Je sais pas si c'est même pas l'article qui en parle d'ailleurs. C'est Thronefall sur Steam qui est en
Ouais,
accès
Thronefall,
anticipé.
trop bien, bien
Mais
sûr.
c'est génial. Enfin, je sais pas combien de temps ils ont passé dessus, mais c'est juste dingue, quoi. C'est la qualité du jeu et c'est là trop fun. Bon, voilà. Tu vois, c'est des exemples
Ouais.
de jeux, je pense, qui peuvent être faits en. T'as pas besoin de 3 ans, je pense, pour le développer, quoi.
Ah non, par contre, il faut avoir la bonne idée.
Ouais.
Et des fois, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que ça dure 3 ans parce qu'on n'a pas la bonne idée et qu'on n'a pas passé assez de temps dans l'idéation. Donc il y a ça aussi qu'il faut faire attention. Mais bon, on en parlera peut-être à un autre moment.
Bon, écoute, je mettrai tous les liens là, hein, des articles à les lire en note de l'émission. Nous, on a fini pour aujourd'hui, pour cette semaine, l'enregistrement de cet épisode. Est-ce que, du coup, on passerait pas à la section horoscope, Benjamin?
Ouais, bien sûr.
Qu'est-ce que tu as de nouveau, de news? Qu'est-ce qui t'occupe là depuis la semaine dernière dans ton quotidien?
Bah, alors, mon quotidien, là, pour l'instant, il est sur la recherche de financement. Donc, ça, c'est la BPI, c'est les prêts d'honneur, c'est les leviers bancaires. Donc, voilà, c'est pas vraiment dans le scope des couloirs du jeu, mais des coulisses du jeu, pardon.
Jeu, ouais.
Mais bon, voilà, c'est mon quotidien. Donc là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué.
T'as pas beaucoup de
Donc,
loisirs, ouais. C'est ça.
non, j'ai pas de horoscope particulier à mettre en avant, malheureusement,
Ouais.
mais j'y penserai pour la prochaine fois.
Moi, j'avais parlé de ma formation GD que j'avais fait la dernière fois, donc
C'est
ouais,
vrai.
j'ai terminé, donc plutôt cool, hein. Ça m'a appris pas mal de choses, hyper intéressant. Sur EDX donc très bien, enfin bon, ça survole beaucoup d'aspects mais ça donne quelques petites astuces comme voilà les MTA frameworks, des choses un peu intéressantes qui peuvent être appliquées justement pour la recherche d'idées, la construction du GD, etc. Là je fais une petite formation Figma aussi en parallèle pour essayer d'apprendre un peu plus l'outil que je trouve dingue, donc j'ai commencé ça, donc c'est hyper intéressant. intéressant parce que c'est un outil que j'utilisais un peu à la va-vite comme ça pour sans vraiment connaître les fonctionnalités avancées. Et en fait, je vois que c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc voilà, je me mets un peu à l'UX et à l'UI là pour des besoins voilà, de création d'interface, des choses comme ça. Et des fois, quand tu as besoin d'expliquer des idées aux devs, le papier et crayon, c'est sympa. Ou tu peux faire des trucs sur PowerPoint aussi, c'est sympa. Mais d'avoir des prototypages un peu plus poussés sur Figma ou des choses sur lesquelles ils peuvent après derrière, facilement exporter les assets pour les intégrer dans leur jeu, c'est quand même plutôt sympa d'avoir un outil comme Figma. Et puis surtout, c'est collaboratif en ligne. Tu envoies le lien, tout le monde peut voir, faire des commentaires, remarques, itérer. Je travaille essentiellement en remote. C'est quand même plutôt, c'est plutôt intéressant. Et puis ça a été racheté par Adobe il n'y a pas longtemps, pour info.
C'est vrai que c'est très bien, Figma.
Voilà. Ouais. Très très content et puis la formation est plutôt cool donc voilà j'essaie d'avancer un peu et je découvre un peu le potentiel de Figma avec des composants réutilisables des choses comme ça quoi voilà voilà bah, on a fini pour cette semaine pour nous du coup vous pouvez toujours nous retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux hein, sur les coulisses du jeu donc Twitter YouTube etc et toi Benjamin est-ce que
Bon,
c'est
eh ben
toujours
moi c'est
Steam?
ah, bien sûr, moi le rendez-vous il est là, il est sur Steam. Voilà, si vous pouvez aussi venir sur le Discord, hein, le mois d'octobre, ça va être le mois de lancement. Alors, est-ce que je dois dire ça? Je sais pas, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, ça s'est pas
Ouais.
passé comme ça. Mon envie,
Ouais,
c'est que
de
le mois
lancer.
d'octobre soit le lancement du serveur Discord avec vos retours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre.
OK.
Et donc bien sûr, le lien du Discord est sur la page Steam, évidemment. Et la boucle est
D'accord.
bouclée.
The Inu Lord's Fate.
Exactement.
Ok, bon, je remettrai le lien de la page Steam du coup du jeu où on peut toujours ajouter en wishlist aussi le jeu. Ça.
Exactement, avec grand plaisir, faites-le.
Donc voilà, et puis bah écoutez, tout pour nous cette semaine pour l'épisode du podcast et les coulisses du jeu. On se retrouve à la semaine prochaine. Bye!
Bye bye, au revoir.